santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Bonjour professeur.
Bonjour Fabrice, alors vous avez avalé finalement ou pas?
Ah bah écoutez, ça m'est resté en travers de la gorge.
Ah bah voilà, c'est le stress qu'on va le voir tout à l'heure, le stress fait ça.
Ça fait plaisir de vous retrouver chaque vendredi sur Nutri Radio, c'est le rendez-vous voilà, de bon matin pour terminer la semaine. Pam, en sachant qu'on est en train de réfléchir à rebaptiser peut-être cette émission pour la saison prochaine, on travaille. Vous savez qu'il y a un comité incroyable, la Cassade de Saloud. Ça, puisqu'on vous appelle le professeur, il y a un vrai truc. Et vous me direz, on aurait pu y penser avant. Alors, sachez, chers auditeurs, qu'on a fait un sondage pour cette émission et vous avez été nombreux à voter pour la santé selon Castronovo. Et en même temps, il n'y avait pas la proposition Cassade de Saloud qui était en jeu. Donc, on va le refaire.
On va le refaire.
Bon, alors, on est parti là pour des volets d'émission. Incroyable. Je vous rappelle que si vous suivez cette émission en podcast et vous êtes nombreux à le faire de plus en plus, on vous dit merci. Votre petite contribution sera, si vous le voulez bien, de vous abonner aussi, car les écoutes, c'est bien, mais les abonnements, voilà, ça nous permet d'être mieux référencés et de montrer à nos partenaires que tout ça, ce n'est pas un vain travail, voyez-vous. Mission, avoir le professeur Castronovo, c'est un petit peu... comment je pourrais dire quoi, Vincenzo?
Ah, je ne sais pas, je vous laisse libre de qualifier cette participation qui est celle de ma pauvre personne.
Avoir le professeur Vincenzo Castronovo sur notre radio, c'est un peu c'est un peu avoir du caviar dans une auberge au fond de la forêt, on s'y attend pas. Non, je rigole. On s'y attend, mais dans un très bon restaurant, vous voyez, vous avez le menu, tac. Hop, voilà. Et bien voilà, c'est le professeur.
Donc peut-être que vous avez l'aspiration d'être étoilé bientôt, c'est ça?
Ah mais j'attends la première étoile.
Ah ben, elle devrait pas tarder, mon ami.
J'espère. Alors, à défaut du bon point, j'aurai peut-être une étoile, voyez-vous.
Ouais, mais non, en fait, l'étoile viendra quand vous aurez accumulé un certain nombre de beaux points, et on n'en a qu'une demi pour le moment.
Bon, je vais essayer d'être très attentif.
Je
vais essayer d'être très attentif à ce que vous allez nous dire aujourd'hui, comme les auditeurs. Alors, sur le live de la radio, les auditeurs vous écoutent, mais c'est vrai qu'il y a la musique et tout, donc on prend les petites informations, et après... on réécoute ces émissions en podcast. Je disais donc tout à l'heure qu'on était parti depuis la semaine dernière sur le tube digestif et le microbiote. Vous avez bien planté le décor, j'ai envie de dire. Il n'y a plus qu'à dérouler. Cette émission d'ailleurs est en podcast disponible. Vous écoutez celle-ci et juste après, vous pouvez faire les deux d'affilée, les trois, les dix. Enfin bon, c'est à vous de voir.
Donc, en effet, donc je rappelle pour tout le monde que le tube digestif est le système le plus important de notre santé. Notre santé est essentiellement dépendante de la santé du tube digestif. C'est-à-dire que personne ne peut être en bonne santé si notre tube digestif n'est pas performant. Ça, c'est évident. Okay? Et comme je le rappelle souvent, Hippocrate l'avait déjà noté. Donc, ce tube digestif va réaliser cette mission, c'est-à-dire dégrader les polymères en monomères, les aliments en nutriments, les absorber et résister à la pénétration d'éléments hostiles ou de molécules partiellement digérées. On verra pourquoi ça peut être un enjeu. Et donc, pour faire ce travail, il va y avoir des sécrétions, c'est-à-dire que le tube digestif va produire des substances qu'elle va déverser dans le tube digestif pour réaliser ses missions. Ce sont des sécrétions dites exocrines. Mais également, et ça montre l'intelligence et la merveille que ce tube digestif, il va y avoir des hormones, okay, donc c'est la partie sécrétion endocrine, qui vont aller avertir le tube digestif de ce qui doit préparer par rapport à ce qui va arriver. Donc il y a en temps réel, à chaque moment, une évaluation de ce qui est présent dans un segment et qui va entraîner des besoins pour la continuation de ce processus de digestion. Alors, bien sûr, il y a des sécrétions qui vont déverser dans le tube digestif qui vont aider à la digestion, des enzymes, toute une série de molécules qui favorisent l'activité de ces enzymes. Alors, je vous rappelle, c'est quoi? Alors, peut-être que vous le savez, qu'est-ce qu'une enzyme ou un enzyme? Généralement, on leur donne un nom féminin parce qu'elles travaillent, elles, les enzymes.
Vous aimez bien ça, hein, ces petites colles là, comme ça, alors que les... Hein, vous aimez bien ça, je vous ai déjà vu.
Mais vous m'avez parlé d'enzymes tout à l'heure, je me suis dit, ah tiens, Fabrice connaît les enzymes.
Bien sûr, je connais.
Enzyme n'est pas quelqu'un qui utilise des mots dont il ne connaît pas la signification,
mais
évidemment.
Non, je ne sais pas grand-chose, mais je sais que c'est une protéine qui va agir, qui va accélérer les réactions biochimiques. C'est tout ce que je sais.
Très bien, mais c'est déjà très bien. Là, vous avez 3/4 de points.
Yes!
Alors, vous perdez 1/4. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les protéines qui savent faire ça. Il y a également des molécules d'ARN qu'on appelle les ribosomes. OK? qui ont permis de suggérer d'ailleurs que à l'origine le monde était un monde d'ARN. Ok, c'est-à-dire que l'ARN, on va voir, est la molécule intermédiaire qui permet de produire une protéine. Ok, après avoir été transcrit l'ADN dans de l'ARN, l'ARN est traduit en protéine. Et on s'est rendu compte que certaines molécules d'ARN avaient une activité catalytique, c'est-à-dire enzymatique. Et ce que vous avez dit très bien, c'est qu'elles vont accélérer les réactions chimiques leur permettant de se réaliser dans les conditions de la vie sur la planète Terre, et notamment chez nous, à 37 degrés Celsius. Donc ces enzymes vont contribuer à découper les polymères en monomères, okay, les carbohydrates en glucose, parce que le carbohydrate, c'est exclusivement des polymères de molécules de glucose, qui est la monnaie énergétique, le carburant élémentaire de tous les organismes vivants. Les protéines, leurs monomères, ce sont les acides aminés. La famille des lipides est un peu plus complexe, parce que ce sont des molécules qui sont peu solubles dans l'eau, donc elles sont jamais très longues. Et on va parler des triglycérides, des phospholipides, avec également, une famille un peu hétéroclite, le cholestérol et les molécules associées. Okay. Et donc, on va produire toutes ces enzymes qui vont digérer, mais également qui vont devoir être accompagnées d'autres molécules permettant de préparer l'appétence dans un état qui peut être digérable. Okay. Mais également, le tube digestif va se protéger. Il va se protéger d'abord des agressions physiques de l'aliment et également des micro-organismes qui pourraient compromettre l'intégrité de notre corps. Okay. Et donc notamment, il va y avoir du mucus, mais également et notamment dans la bouche des enzymes qui vont s'attaquer aux bactéries potentiellement pathogènes. On l'appelle une de ces enzymes importantes et le lysozyme. Mais il y a une kyrielle de molécules qui vont faire ce travail de protection. Voilà un peu le scénario.
Oui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une première pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Reste avec nous.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Le professeur Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio est avec nous pour vous parler de ce fameux tube digestif et du microbiote. On va en parler pendant quelques émissions. Tube digestif qui, vous l'avez compris, va se protéger de ses agressions. Et ça, déjà, il se protège même par anticipation puisque les enzymes de la bouche vont agir dès finalement l'absorption.
Absolument, absolument. Et donc, nous étions en train de parler de cette première étape, mais avant d'arriver à mettre de l'alimentation dans la bouche, je devais vous rappeler que ce tube digestif est contrôlé par notre système nerveux central à toutes les étapes, mais qu'également, également, ce tube digestif a une qualité autonome parce qu'il a son propre système nerveux qui va être influencé par le système nerveux central. Et les centres de commande du tube digestif, on verra, sont, ça je simplifie, en connexion proche avec le centre des émotions. Okay? Donc parfois, des émotions peuvent perturber le fonctionnement du tube digestif en empruntant les voies qui normalement vont contrôler les différentes étapes de la digestion. Donc, le but de la digestion, je vous le rappelle, c'est de réduire les polymères en monomères absorbables. Et une notion importante, qui est peut-être un peu compliquée, c'est de détruire l'identité antigénique des polymères.
Alors là, oui, c'est compliqué.
Ah oui, donc voilà, c'est compliqué, mais je pense que vous êtes capable, et vos auditeurs aussi, de le comprendre. Un antigène, c'est quoi ? Le mot antigène est un mot créé par la fusion de deux mots. Antibody generation, c'est-à-dire toutes substances qui vont générer la production d'anticorps. Okay. Les anticorps sont les armes ultimes du système de défense adaptatif immunitaire dont nous parlerons plus tard. Et vous savez tous que quand vous êtes attaqué par un virus ou quand on vous vaccine, vous faites des anticorps. Ce sont les outils qui vont permettre de détruire l'ennemi. Okay. Et ces anticorps reconnaissent tout ce qui n'est pas vous. Okay. C'est-à-dire quand vous mangez un œuf, la protéine ovalbumine qui est le blanc d'œuf, si vous l'injectez dans votre corps, elle est reconnue comme un ennemi. Votre corps pense que vous êtes attaqué par des poules et va faire des anticorps anti ovalbumine. Évidemment, le blanc d'œuf ne va pas se transformer. Vous n'êtes pas attaqué par une poule. Il n'y a jamais une poule qui a pénétré encore, enfin, je pense pas, hein, et qui a donné une infection à poule.
Hein. Hein. On a des surprises, hein, parfois.
Ah, on pourrait être surpris, mais bon, voilà. Ne dévions pas du propos, s'il vous plaît.
Pas de digression.
Et donc, oui, pas de déviation. Et donc, dans aucun genre possible. Et donc, les polymères ont une identité qui permet de reconnaître d'où elle vient. Même vous, vous savez, Fabrice, si on prend des protéines, par exemple l'albumine de mon sang, et qu'on détermine la séquence des acides aminés, eh bien, elle sera différente de la vôtre et la mienne de la vôtre. Et éventuellement, si on m'injecte votre albumine, je ferai des anticorps contre votre albumine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une identité interespèce, mais également intraespèce. Donc, il est fondamental que lorsque nous ingérons des protéines, qu'elles soient toutes détruites en acides aminés. Alors, je vais faire un petit exercice, par exemple. Si je vous mets comme...
Alors, attendez, le temps d'évacuer le professeur Vincenzo Castronovo, je ne sais pas, voilà. C'est un antigène. C'est un antigène qui arrive près de chez vous. Il va falloir que vous puissiez vous organiser. Donc, c'est une petite alarme, c'est bien, c'est dans les conditions.
Je ne sais pas, c'est peut-être une voiture, ça ne va pas aller d'être chez moi.
Oui, allez-y, continuez. Bah, si ça ne vous dérange pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui défonce la porte, vous pouvez y aller.
Donc, Fabrice, si je vous donne les lettres B, C, E, I, R, A, F. Est-ce que vous savez de qui je veux parler ?
Camoulox. C'est Camoulox. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas un jeu. Il faut que j'en sarme. Il faut que je fasse un mot avec.
E-I-C-B-A-F-R.
Non, franchement, je vais pas vous mentir.
Écoutez, c'est vous, Fabrice.
Ah, bien.
Donc vous voyez, les lettres séparées ne sont plus reconnaissables. Si je mets F-A-B-R-I-C-E... Hein, vous avez Fabrice. Là, oui. Là, vous reconnaissez tout de suite. Donc, la digestion va servir à détruire l'identité de ces polymères. Et les polymères qui sont le plus proches de l'individu, c'est bien sûr les protéines et les acides nucléiques, qui sont le code qui permet de produire ces protéines. Okay. Donc, ces molécules doivent absolument être dégradées en polymères, sinon elles représentent une menace antigénique capable d'initier une allergie. Une allergie, c'est une réponse immunitaire contre une molécule étrangère mais qui n'est pas associée à un ennemi. Okay. Allergie au pollen, quand vous avez du pollen qui rentre dans votre nez, il n'y a jamais un boulot qui va pousser dans vos nez, on n'a pas d'infection au pollen. Okay. Et on peut être allergique à la cacahuète, aux fruits de mer, etc. Et donc, on ne va pas être attaqué par les aliments, en plus, on les a mangés morts. Okay. Et donc, mais notre système immunitaire, il est basé sur le fait que normalement, aucun étranger ne pénètre notre organisme. Pardon, parce qu'il pourrait être un ennemi. Alors, l'origine des allergies est essentiellement liée à l'entrée de molécules étrangères qui ne sont pas ennemies et contre lesquelles notre système immunitaire va réagir de manière parfois trop violente. Okay. Mmh. Alors, pour rendre les choses un peu également plus compliquées, parfois, il y a une similitude entre un antigène qui vient, donc une molécule étrangère, et nos propres molécules. Alors, par définition, notre système immunitaire ne fait jamais d'anticorps contre nos propres molécules, ce qui me paraît intéressant. C'est-à-dire que les soldats ne vont jamais tirer sur un des leurs, ils ont des signes de reconnaissance, d'accord, hein. Il n'y a pas une unité d'une armée qui va attaquer l'unité de la même armée, d'accord. Mais parfois, il peut y avoir des leurs, à savoir que il peut y avoir une molécule qui ressemble à un ennemi, et l'anticorps qui a été créé pour attaquer l'ennemi peut, par mégarde, se lier à la structure qui est, en fait, vous-même. D'accord ? Comprenez-vous ?
Bien sûr.
Et donc, vous allez détruire, parce qu'une fois que l'anticorps est fixé sur une structure, ça donne l'ordre de sa destruction. Donc, si c'est vos thyroïdes ou vos articulations, vous allez détruire vos thyroïdes ou vos articulations. Et ça, c'est la base de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes.
Très bien.
Qui, Voilà, ok. Donc comme ça, on a déjà, on en reparlera bien sûr. Et ce phénomène s'appelle le mimétisme antigénique.
Alors, on marque une pause cette fois-ci et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission avec le professeur Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Dernière partie de cette émission avec le professeur Vincenzo Castronovo qui nous parlait de quelque chose de fascinant, le mimétisme. Et ça y est, j'ai oublié.
Pourtant, antigénique.
Antigénique. Voilà, le mimétisme antigénique, c'est-à-dire quand, eh bien, finalement, des cellules du système immunitaire, non pas du tout, quand une substance qui normalement n'est pas antigène, eh bien, est reconnue comme telle par l'organisme. C'est ça ? Parce qu'elle ressemble, elle ressemble à un ami.
Lorsqu'une structure moléculaire étrangère ressemble à une molécule de notre corps, le système immunitaire réagit contre la structure immunitaire étrangère et l'anticorps qui est produit contre cette molécule étrangère ou contre cette particule étrangère va reconnaître également nos propres molécules. Et par exemple, quelque chose qui est enseigné à l'université, c'est le rhume articulaire ou bien le rhumatisme articulaire aigu. Un petit pourcentage de la population, lorsque vous faites une angine rouge à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, eh bien, vont se retrouver dans les jours qui suivent avec une inflammation majeure de toutes les articulations qui vont gonfler, qui vont être rouges, ils ne pourront plus bouger. Ou pire, une attaque des valves du cœur. Et ça va donner ce qu'on appelle une endocardite qui plus tard donnera un souffle cardiaque, éventuellement une décompensation cardiaque plus tard. Que s'est-il passé? Le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A a des antigènes qui permettent de le reconnaître comme un salopard qui est en train d'essayer de vous bouffer la gorge. Et donc, le système immunitaire a produit des anticorps contre ces streptocoques, les antigènes, les molécules qui sont la carte d'identité de cette bactérie pathogène, c'est-à-dire qui génère des maladies. Malheureusement, en fonction du polymorphisme génétique, que vous rappelez très bien de quoi il s'agit, hein, Fabrice, polymorphisme génétique.
Mais bien sûr, évidemment.
Et vous voulez le rappeler ou pas?
Ben, si vous voulez, je vous le rappelle, mais bon, vous pouvez le faire mieux que moi. Non, je veux le faire, je rigole. Ça, c'est quand je répondais mal à l'école, mais ça ne fonctionnait pas. Alors, attends, il y a un petit peu de bruit, mais c'est, voilà, ça fait référence aux changements génétiques qui vont exister entre des gens d'une même espèce.
Oui, je vous rappelle que nous sommes construits à partir de 22 000 protéines pour lesquelles nous n'avons que deux recettes, mais pour chaque recette, pour chaque protéine, il y a des millions de recettes dans la population humaine, et donc nous ne pourrons en avoir que deux. Et parfois, il y a des petites variations. Hein, par exemple, une voiture, elle a toujours la même structure, mais il y a des variations. Il y a toujours des roues, un volant, etc. En tout cas, pour le moment. Et donc, mais on peut les reconnaître. Okay. Eh bien, parfois, certaines protéines ont des variations qui ne changent pas du tout leur fonction, mais leur look, leur structure. Chez un petit pourcentage de la population dont le polymorphisme de protéines de l'articulation ou du cœur, donc des valves cardiaques, ont un mimétisme avec l'antigène du streptococque bêta-hémolytique du groupe A, les anticorps produits contre la bactérie vont circuler dans le sang à la recherche éventuellement de bactéries streptococques qui auraient se seraient fait la malle pour aller infecter ailleurs. Et donc, l'anticorps circulant va se dire, tiens, ce salopard est arrivé dans l'articulation, il va s'y fixer, s'y coller. Parce que la structure ressemble à la structure de la bête. Okay. Et une fois que l'anticorps est fixé, ça donne l'ordre au fantassin d'envoyer la batterie lourde et de le détruire. Et donc le patient va avoir une réponse inflammatoire. L'inflammation, c'est le combat que mène notre ami contre l'ennemi au niveau de l'articulation, sauf que l'articulation, c'est pas notre ennemi. La même chose au niveau du cœur. Et donc, on voit à ce moment-là qu'on a une maladie dite auto-immune, mais contre une bactérie pathogène, et ce n'est qu'un petit pourcentage de ces patients. Okay? Par contre, on a le même processus contre des protéines qui ne sont pas associées à des ennemis, à des bactéries pathogènes, mais bien contre des aliments, par exemple, c'est bien connu, et on en reparlera plus tard. Donc, la mastication va jouer un rôle extrêmement important pour détruire cette identité antigénique.
La mastication, vous
alors,
y tenez à ça.
Alors, lors de la mastication, mon ami Fabrice, il y a deux événements. Il y a une digestion mécanique et une digestion chimique. La digestion mécanique, ok, va se faire par les dents. Ok, nous allons d'abord utiliser les canines et les incisives pour trancher. Et puis, nous allons avoir les molaires pour écraser. Cette digestion mécanique va transformer l'aliment en une pâte plus ou moins homogène qui va se mélanger aux sécrétions salivaires. Ce qui est intéressant, mon petit Fabrice ou mon grand Fabrice, hein, Fabriceou, c'est que la composition de la salive change dès lors qu'il y a un aliment dedans.
Ah.
Elle va s'enrichir. Ah oui, la salive qui n'est pas la même lorsque tu parles pour humidifier la langue, le palais, etc., et les cordes vocales, que lorsque tu manges. Il y a un signal, il y a des senseurs, okay, des récepteurs qui détectent la présence d'alimentation et qui va ordonner la sécrétion d'enzymes digestives, notamment l'amylase. L'amylase qui est donc une enzyme qui va digérer l'amidon. L'amidon qui est un carbohydrate, c'est-à-dire famille des glucides, et qu'on trouve dans le pain, dans les pâtes, dans le riz, dans tout ce qui est céréales. Okay, donc cet amidon va être digéré. Et d'ailleurs, l'histoire dit que pendant la guerre, nos aînés...
pardon. Ça va aller, Vincenzo?
Oui, ça va aller, je vais prendre un peu d'eau, s'il vous plaît.
Mais prenez un petit peu d'eau pendant ce temps-là, je fais la petite causette. Si vous voulez réagir à ces émissions, n'hésitez pas à penser à nous envoyer un petit message sur le site de nutriradio.fr dans le formulaire de contact en précisant Vincenzo Castronovo. Bon, c'est bon, Vincenzo?
Nos grands-parents, comme ils n'avaient pas beaucoup de desserts de chocolat, eh bien, ils mâchaient pendant très longtemps le pain, et à la fin, ça donne un goût un peu sucré, parce que la digestion de l'amidon va libérer du maltose, qui est deux manoses de sucre, qui va en fait donner ce goût un peu sucré. Alors il y a également une lipase, c'est-à-dire une enzyme qui va commencer à digérer les graisses, mais c'est une digestion qualitative et pas quantitative. C'est pour pouvoir apprécier la quantité de graisse qu'il y a dans l'aliment et préparer les autres étapes, les autres étages qui vont eux effectivement digérer le gras, okay, les triglycérides et les phospholipides, et pour qu'il y en ait en quantité suffisante. On va voir que c'est génial, tout est coordonné. Il y a des récepteurs au goût aussi, on doit savoir que le goût amer est associé à du danger, et quand on mange quelque chose d'amer, eh bien le tube digestif se prépare pour en accueillir moins, notamment en contractant l'estomac pour qu'il ne soit pas trop rempli. Bon, ça c'est hyper intéressant également.
Alors pardon, donc, professeur, ça veut dire qu'il faut mâcher, mais pas trop longtemps, parce que si on mâche trop longtemps pour, par exemple, certains aliments riches en glucides, comme le pain, vous l'avez dit, ou la pomme de terre, on va libérer de sucre, donc du glucose.
Du glucose, non, on va favoriser la digestion, pas nécessairement, mais évidemment, c'est quand on mâche très très longtemps, et c'est pas la mastication, c'est le fait d'avoir le pain pendant très longtemps dans la bouche, favoriser la digestion enzymatique.
D'accord.
Donc... Mais vous ne pouvez pas faire l'économie de la mastication pour transformer l'aliment solide en pâte.
Il ne faut pas le garder dans la bouche trop longtemps, et pour les chewing-gums, par exemple, c'est pareil?
Les chewing-gums, vous n'allez pas... Non, le chewing-gum va en fait produire la salive, mais il n'y a pas d'aliment dans le chewing-gum, sauf s'il y a du sucre, où là vous allez produire un peu d'amylase, mais il n'y a pas vraiment d'activation du tube digestif par le chewing-gum. Par contre, votre salive ne va pas vraiment se mélanger, sauf si le chewing-gum est très sucré. Okay,
très bien. Donc pour le pain, en même temps, il n'y a personne qui garde du pain comme ça pendant une heure dans la bouche.
Voilà.
On est d'accord.
Alors en fait, la règle de la mastication, c'est vous mastiquer jusqu'à ce que vous avez dans la bouche à la consistance de quelque chose que vous donneriez à un bébé sans dents. Ok?
Ouais, ça parle à tout le monde, cette image.
Donc, oui, ce n'est pas... Alors, il y en a qui comptent, il ne faut pas compter, on ne mastique pas le même nombre de fois. Un morceau de steak de vieux sanglier ou de vieux bœuf, de taureau, que un morceau de cabillaud qui est beaucoup plus friable. Donc c'est vraiment, il faut une question de bon sens. On va mastiquer jusqu'à ce que on ait une consistance qu'on pourrait donner à quelqu'un qui n'a pas de dents. Ok? Et vous savez que par exemple, personnes âgées qui ne savent plus mastiquer, eh bien on leur moue leur aliment. On mélange tout, ça c'est dégueulasse d'ailleurs. On mélange tout et on leur donne comme ça cette pâte un peu infâme parce qu'il y a quand même un plaisir. Alors, vous devez savoir, ce qui est important, c'est qu'en mastiquant le bien, eh bien, vous allez avoir, il y a un dialogue qui s'établit entre la bouche, la mastication et le centre de la satiété. Après avoir mastiqué, pendant 20 minutes, eh bien, vous allez avoir une saturation de votre centre de la satiété. On va dire, ok, t'as assez mangé. Mais ça ne veut pas dire rester à table 20 minutes, ça veut dire mastiquer 20 minutes. Okay? S'il y a des gens qui restent à table 2 heures, mais qui ont parlé pendant 1h50, quoi. Ils n'ont pas mastiqué, ils avalent sans mâcher. Okay? Et cette mastication, elle est fondamentale. On ne peut pas être en bonne santé si on ne mastique pas bien. Okay? Étape fondamentale. Alors, on a 3 paires de glandes salivaires. Les parotides, 2 parotides qui peuvent s'infecter par un virus qui va donner ce qu'on appelle les oreillons. Vous avez entendu parler de ça, les oreillons?
Oui.
Donc ce sont des glandes qui sont un peu en avant de l'oreille. Il y a 2 glandes sublinguales et 2 glandes sous-mandibulaires qui vont produire 1,5 litre de salive par jour. Okay? Alors, la salive va nettoyer en fait la bouche et notamment les papilles gustatives. Elle va dissoudre chimiquement les molécules, elle va favoriser l'activité des enzymes et elle a des facteurs de croissance qui permettent la réparation des lésions infligées par les aliments solides au niveau de la bouche. Vous avez déjà remarqué que quand vous blessez au niveau de vos lèvres ou de vos gencives ou à l'intérieur de la joue, ça se cicatrise très rapidement. Okay?
C'est vrai ça. Professeur, on est obligé de terminer cette émission parce qu'on est déjà hors... ceux qui arrivent derrière, ils vont pas être contents. Hein. Donc on se retrouve la semaine prochaine, ça vous va?
Voilà, donc on va pas encore avaler, il y a encore des choses à dire avant d'avaler.
Hein. Oui, et j'ai bien compris de toute manière que cette sensation de satiété est provoquée après 20 minutes de mastication, d'où l'importance aussi...
Manger lentement et en pleine conscience.
Oui, je n'affirme rien, mais aussi de manger des trucs qui sont difficiles à mastiquer. Parce que si on mange que du cabillaud, comme vous l'avez dit, 20 minutes, on va en prendre.
Hein. Ouais. Ouais,
il faut comprendre.
Ou du pain américain ou du McDo, etc. C'est évident que on va pas mastiquer longtemps et c'est très délétère pour les dents, évidemment.
On se retrouve la semaine prochaine, émission.
Avec lui, mon petit Fabrice.
Eh ben exactement, plaisir. Toujours là, plaisir avec nous. Et cette émission donc sera dispo à partir de 18h sur nutriradio.fr. C'est ce dimanche pour le podcast. Au revoir, cher professeur.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.